un journal présenté ce soir par Annabelle Grelier. Bonsoir Annabelle.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Accusée d'être trop lente, l'Europe a donné aujourd'hui un coup d'accélérateur à ses programmes de vaccination en doublant ses commandes de doses Pfizer-BioNTech, soit 200 millions de doses supplémentaires pour un total de 600 millions de doses. La livraison est attendue pour le deuxième trimestre 2021. Londres placée en situation d'incident majeur en raison de l'affluence dans les hôpitaux qui risque d'être débordée. Un Londonien sur 30 a contracté le virus selon les autorités. L'Iran interdit l'importation de vaccins fabriqués aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ils ne sont pas dignes de confiance, a estimé le guide suprême Ali Khamenei. Aux États-Unis, la présidence Trump est au bord de l'implosion. Appel à la démission, projet de procédure de destitution et le FBI qui diffuse un avis de recherche pour retrouver les principaux auteurs de la violente intrusion dans le Capitole. En France, la culture reprendra-t-elle sa place? Pas question de rouvrir encore les lieux culturels, mais la ministre veut rassurer le secteur mis sous cloche par le Covid-19 depuis bientôt un an. Les intermittents du spectacle sont mobilisés ce week-end en assemblée générale dans toute la France. Face aux critiques concernant la lenteur des campagnes de vaccination, l'Europe met les bouchées doubles. Elle double en tout cas ses commandes de doses Pfizer-BioNTech. Le vaccin actuellement sur le marché en France est administré depuis quelques jours aux soignants et aux personnes à risque. L'Agence européenne des médicaments a même recommandé ce midi l'utilisation d'une dose supplémentaire par flacon. Chaque flacon permettrait de vacciner 6 personnes au lieu de 5 actuellement, Anne Fouquemberg.
En Europe, l'Italie n'a pas attendu le changement de pied de l'Agence européenne des médicaments pour prendre 6 doses dans chaque flacon de vaccin développé par Pfizer-BioNTech. Une 6e dose au lieu des 5 actuellement recommandées dans les instructions d'utilisation par le fabricant. Il s'agit d'un résidu laissé dans chaque flacon comme une marge de sécurité, explique Mathieu Molimard. Il est le responsable du service de pharmacologie médicale au CHU de Bordeaux.
On met toujours un peu plus dans le flacon parce qu'il va y avoir une préparation. Et que cette préparation, il peut y avoir une petite variation. Quand on tire avec une seringue 0,3, on peut sortir 0,33. Et puis si l'aiguille qui a permis de prélever est un peu plus large ou un peu plus longue, et bien il va y avoir ce qu'on appelle un espace mort avec un peu plus de produit dedans. Donc on en perd toujours un petit peu. Mais s'il y a une vraie dose qui peut être sortie avec 0,3 millilitres, qui peut sortir une 6e dose parce qu'on n'a pas eu d'anomalie en termes de préparation ou autre, ben, ça serait bien de pouvoir les utiliser parce qu'on a besoin de toutes les doses possibles. Mais ça, il faut un enregistrement, une autorisation formelle pour le faire.
L'Agence européenne avertit. Il est possible qu'il n'y ait pas assez de vaccins pour extraire une 6e dose si les professionnels de santé utilisent des seringues et des aiguilles standards. De plus, elle conseille de ne pas mélanger les restes de flacons multiples pour constituer une dose complète. En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament, cette fois-ci, devrait rapidement se prononcer. Cette 6e dose permettrait d'augmenter les capacités de vaccination de 20%.
Au total, donc, 600 millions de doses ont été commandées. La livraison est attendue pour le deuxième trimestre 2021. Et un deuxième vaccin, après celui de Pfizer-BioNTech, va pouvoir être utilisé en France. Ce vaccin, développé par Moderna, a reçu mercredi l'autorisation de commercialisation de l'Union européenne. Quelques 2 600 000 doses de vaccins contre le Covid-19 seront livrés dans l'Hexagone d'ici fin janvier. La question est maintenant de savoir si cela va pouvoir accélérer la campagne de vaccination dans le pays. Selon Gilles Bonnefond, le président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine, ce n'est pas forcément le Moderna qui permettra cette accélération, mais plutôt le développement de la vaccination avec la médecine de ville.
Le Moderna va arriver à un rythme très faible, hein, puisqu'il arrivera à un rythme 4 fois plus faible que celui du vaccin Pfizer. Donc ça amènera des doses en plus, mais ça ne va pas améliorer la fluidité. Il se conserve à moins de 20 degrés. Il doit être transporté congelé. Donc c'est vrai qu'une fois qu'il est sur site, il peut être utilisé pendant un mois après un stockage entre 2 et 8 degrés. Mais au vu des volumes qui sont prévus pour l'instant, ça n'amènera pas beaucoup de fluidité. Ça amènera un complément, tout simplement. Il va falloir, si on veut accélérer le mouvement, plutôt que de créer des centres de vaccination avec des volontaires, des personnes retraitées qui viendront ou qui viendront pas ou qui viendront quelque temps. Utilisons les cabinets médicaux, les cabinets d'infirmiers, les cabinets de pharmaciens pour faire ce travail. Ce sera beaucoup plus simple et d'ailleurs ce sera avec beaucoup plus de confiance de la part des patients. Si c'est compliqué, s'il faut faire 40 km, se retrouver concentré dans un centre à attendre des heures alors que tout le monde dit que quand vous avez plus de 75 ans, Il faut éviter d'aller dans des endroits où éventuellement on rencontre d'autres personnes. Eh bien, passons à la vitesse supérieure et faisons que la médecine de ville, les pharmaciennes de ville et les infirmières de ville puissent vacciner dans des conditions classiques avec un stockage sécurisé et un approvisionnement via la pharmacie, comme on le fait régulièrement pour d'autres dispositifs.
Gilles Bonnefond répondait à Laura Dulieu. La France s'inquiète du nouveau variant britannique du Covid. Toute la population de Bagneux dans les Hauts-de-Seine sera dépistée à partir de ce samedi. Alors qu'une personne travaillant en milieu scolaire a été testée positif à cette nouvelle variante du virus. Il s'agit d'un employé communal qui intervient dans deux groupes scolaires de la ville. Il a contracté le virus pendant les vacances scolaires de Noël alors qu'elle ne s'est pas déplacée au Royaume-Uni. Et outre-Manche, le maire de Londres, Sadiq Khan, déclare lui un état d'incident majeur impliquant une réponse coordonnée des services publics dans la capitale britannique. La propagation du nouveau coronavirus est hors de contrôle, dit-il, et les hôpitaux risquent d'être submergés d'ici quelques jours.
Nous sommes dans une situation où le virus est hors de contrôle. À travers le pays, on nous dit qu'une personne sur 50 est infectée par ce virus. À Londres, en moyenne, c'est une sur 30. Mais dans certaines parties de la ville, c'est un londonien sur 20. Sur un jour normal, les services d'ambulance reçoivent 5000 appels. Actuellement, c'est entre 8 et 9000 quotidiennement. Nous détournons des pompiers et des policiers pour qu'ils conduisent des ambulances pour aider à sortir de cette crise.
Une situation alarmante à Londres et plus largement au Royaume-Uni. Le pays est confiné depuis mercredi et la campagne de vaccination s'accélère. Les autorités essaient d'enrayer la propagation par tous les moyens, Richard Place.
La dernière trouvaille, ce sont deux médicaments pour lutter contre l'arthrite. Une étude affirme qu'ils auraient des effets bénéfiques sur les patients infectés. Leur utilisation commence aujourd'hui en Angleterre. Sauf que ce traitement a déjà été envisagé et étudié en France et aux États-Unis avec des résultats très contrastés. Son efficacité réelle n'est pas scientifiquement démontrée. Les autorités britanniques ont aussi décidé de plus espacer les deux doses de vaccin. De 3 semaines maximum, elles sont passées à 3 mois pour donner la première dose à plus de monde, considérant qu'elle offre une protection déjà importante. Bémol, Pfizer, le producteur de l'un des vaccins, dit que rien ne certifie l'efficacité de cette première dose sur une période aussi longue. Enfin, à titre exceptionnel, le Royaume-Uni s'accorde la possibilité de mélanger les vaccins. Une dose de l'un, puis une dose d'un autre. Solution envisagée en cas de pénurie. Mieux vaut une deuxième dose d'un autre vaccin que pas de deuxième dose du tout, dit une responsable. Là-dessus, aucune étude scientifique n'a été menée.
En Iran, le guide suprême Ali Khamenei a interdit, lui, aujourd'hui, l'importation de vaccins anti-coronavirus fabriqués aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il estime que ceci pourrait servir à contaminer son pays.
Le guide suprême dit non aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, le grand et le petit Satan pour la République islamique. Nous ne voulons ni vaccin américain ni britannique, a fait savoir Ali Khamenei dans sa première allocution de l'année, ajoutant que les vaccins venant de France n'étaient pas non plus dignes de foi. Et pourtant, l'Iran est le pays le plus touché du Moyen-Orient par la pandémie avec plus de 55 000 morts et 1 200 000 contaminations. Le premier cas du variant britannique du nouveau coronavirus vient d'être détecté dans le pays. Mais voilà, entre la République islamique et l'Occident, il n'y a aucune confiance réciproque depuis bien longtemps. L'Iran a été échaudé par l'attitude des États-Unis et des pays européens dans la gestion du dossier nucléaire, à tel point qu'Ali Khamenei n'est pas pressé que Washington revienne dans l'accord de Vienne de 2015. Si les sanctions sont levées, le retour des Américains aura un sens, sinon ce n'est pas dans notre intérêt, a conclu le guide suprême. Mais qui sous-entend aussi que la relance de l'enrichissement de l'uranium à 20% est réversible et que l'Iran n'est pas fermé à des discussions avec la nouvelle administration de Joe Biden. Mais avant cela, il faut tourner la page de Donald Trump.
Une analyse de Christian chez nous. Et en Chine, où l'épidémie est sous contrôle, deux grandes villes de la banlieue de Pékin ont été coupées du monde pour endiguer les nouveaux foyers de Covid-19. Les autoroutes sont fermées, les liaisons aériennes en train et en autocar longue distance ont été suspendues. Les habitants ont reçu l'ordre de ne pas se déplacer, de même que ceux des régions environnantes. Le nombre des personnes affectées par ces restrictions est évalué à 18 millions. Et en Australie, après une seule contamination, les autorités ont décidé d'imposer un confinement de 3 jours à 2 millions d'habitants de Brisbane, la troisième ville du pays. Réunion rue de Valois des acteurs de la culture autour de la ministre Roselyne Bachelot ce soir. Pas question de rouvrir encore les lieux culturels. Mais la ministre veut rassurer le secteur mis sous cloche par le Covid-19 depuis bientôt un an. Il commence évidemment à s'impatienter, à grogner et même hurler. Bien sûr, le ministère a promis de prolonger l'année blanche qui permet aux intermittents de toucher leur assurance chômage au-delà du 31 août prochain. Mais cela ne répond pas à la crise sociale qui touche les 70 000 intermittents du spectacle vivant. À la appel de la CGT, ils sont mobilisés jusqu'à dimanche en assemblée générale dans toute la France. Bonsoir Cécile de Kervas-Doué.
Bonsoir.
Des intermittents évidemment très inquiets.
Oui, pour les 70 000 intermittents du spectacle vivant, la situation économique et sociale se tend de mois en mois. Sébastien Coutant est comédien à Niort, dans les Deux-Sèvres. Après 20 ans d'intermittence, il n'a pas travaillé depuis le printemps dernier. Toutes ses tournées ont été annulées, son revenu divisé par deux. Pas facile avec 3 enfants à charge, mais surtout pas facile psychologiquement.
Là, ouais, ça fait des grosses pertes de revenus. Alors, c'est pas toujours facile. Et ce qui est le plus difficile, c'est cette incertitude permanente, quoi. Je sais plus ce que j'aurais envie de défendre sur un plateau. On peut pas faire de la poésie avec ce qu'on vit. Et en même temps, la poésie, elle est nécessaire à comprendre aussi ce qu'on vit.
Ce que veulent faire valoir les intermittents, c'est leur droit au travail. La CGT du spectacle a ainsi déposé une proposition hier sur le bureau de Roselyne Bachelot dans laquelle elle demande à l'État de s'inspirer de ce qu'ont fait les Pays de la Loire cet été. Ce qu'explique Sébastien.
Il y a eu des expériences en Pays de la Loire où des collectivités avec l'État à travers les DRAC, etc., financent des petites formes, dire ben voilà, on garantit tant de jours de travail pour des lectures, pour des formes, danser, essayer de croiser les arts, etc., et puis aller à la rencontre des publics. Moi, je vois, on pourrait imaginer des cycles de lecture dans les collèges, dans les établissements scolaires, sans s'asseoir sur les règles sanitaires, etc. Mais ça, il faut une volonté politique.
L'idée serait de financer des petites répétitions à hauteur de 10 journées de travail par intermittent, payées chacune au cachet moyen. Une aide supplémentaire évaluée par la CGT à 115 millions d'euros, loin devant donc les 15 millions que promet pour l'instant le ministère. Ce qui fait dire à Sébastien Coutant.
Je pense qu'en effet, il y a quelque chose de l'ordre d'un choix de société, puisque ça s'entasse à des endroits, puis à d'autres endroits, on interdit de se réunir. Et les endroits où on interdit de se réunir, c'est là où on va partager des émotions collectives. Et les autres où on autorise à se marcher dessus, c'est les endroits où les dividendes y pleuvent pour les actionnaires.
Roselyne Bachelot s'est dite ce matin favorable à des spectacles en public si tout le monde a été testé, comme cela a été fait à Barcelone, un concert test qui pourrait également avoir lieu à Marseille en février. Merci Cécile de Kervas-Doué. Et voilà que des soupçons se portent maintenant sur des dessins de Basquiat. 35 dessins inédits de l'artiste américain Jean-Michel Basquiat étaient exposés cet automne dans une galerie de Nuit-Saint-Georges, mais un doute plane sur leur authenticité. Sont-ils des faux ? Plusieurs experts le soutiennent. Trier le vrai du faux, Isabelle Pasquier, vous avez mené l'enquête.
Et l'histoire avait tout d'un conte de fées. 35 dessins inédits de Jean-Michel Basquiat, exposés dans une toute nouvelle galerie, la galerie Volcano au pied des vignes. Sauf que quand Richard Rodriguez, un collectionneur parisien de Basquiat, les découvre dans un reportage de France 3, il est carrément furieux.
Ils ont donné à ces dessins un côté puéril, comme si Basquiat était un écolier. Ça fait très croquis d'enfant, quoi. Mais c'est pas Basquiat. Jamais Basquiat n'a mélangé les couleurs comme ça. Vous voyez, les visages sont bouchés. C'est totalement puéril. Il n'y a pas d'âme. Si Basquiat avait été ça, il ne serait jamais devenu célèbre.
Et Richard Rodriguez a l'œil aiguisé. En 94, c'est lui qui dénonce 3 fausses toiles de Basquiat vendues par la galerie Templon à la FIAC. Ça lui vaudra un procès en diffamation qu'il gagnera. Et pour les dessins de Nuit-Saint-Georges, il n'est pas le seul à voir des faux. J'ai rencontré Guy Ribes, le plus célèbre des faussaires français, et son verdict est également sans appel.
Pour moi, Basquiat, c'est une âme. Et là, dès que je vois ses dessins, il n'y a pas d'âme. Et ça m'étonnerait que Basquiat faisait des dizaines de dessins comme ça. C'est lourd. C'est pas spontané, ça se voit. Pour moi, c'est pas bon. Moi, à l'époque où je faisais des faux, c'est l'âme qui compte.
Et ce qui pose également problème, c'est le nombre important de dessins dans cette affaire. C'est ce qui choque le grand galeriste Nordine Zidoun.
Personne au monde ne détient autant de dessins en privé et même un musée. Il y en a pour entre 50 et 60 millions de dollars. C'est juste pas possible. Donc, sur quelle valeur ils ont été assurés? Ou ils se sont fait avoir en achetant ces dessins, auquel cas, qui montrent la valeur d'assurance pour montrer leur bonne foi. Si je vous la montre pas, c'est que je suis de mauvaise foi.
De son côté, Dominique Viano, le propriétaire de la majorité des dessins, affirme qu'il les a acquis légalement.
Je les ai achetés à un collectionneur français qui les a achetés, lui, au collectionneur d'origine, collectionneur américain, David Rosen, et qui les a acquis principalement au Meute Club auprès de Jean-Michel Basquiat.
Il y aurait donc à l'origine un Américain, un certain David Rosen, qui aurait acheté directement à Basquiat 89 dessins. Étonnant, ce David Rosen est inconnu dans le milieu de l'art et surtout son nom sème la confusion avec un Danny Rosen, acteur et ami de Basquiat. Et ce qui est aussi très troublant, c'est qu'en 2018, Dominique Viano a voulu vendre 4 de ses dessins et la maison de vente Pierre Berger les avait retoqués.
Alors comment savoir avec certitude si ces dessins sont vrais ou faux, Isabelle ?
Eh bien, le problème, c'est que personne aujourd'hui n'est habilité à se prononcer. Le comité Basquiat d'authentification a été dissous en 2012, ce qui peut être d'ailleurs pratique pour des faussaires. Quant à l'Office de lutte contre le trafic de biens culturels, il n'a pas été saisi, faute de préjudice, puisque personne n'a acheté ses dessins. Alors pourquoi les galeristes, les collectionneurs, ne portent-ils pas plainte quand il s'agit de faux ? Pierre Lottier est avocat en droit d'auteur.
Trop parler de faux fragilise le marché. Donc il y a aussi cette question de continuons à travailler sereinement, tranquillement, sans trop faire de vagues. Trop de faux ou trop d'histoires de faux sur le marché, ça peut refroidir les collectionneurs.
Aujourd'hui, on peut donc juste dire qu'il y a un gros doute sur ces dessins. Même si le plus connu des faussaires de Basquiat aux États-Unis, Alfredo Martinez, n'exclut pas qu'il puisse s'agir de dessins bâclés de l'artiste.
Je connais quelqu'un qui s'est fait beaucoup d'argent en récupérant des dessins que Basquiat avait décidé de jeter dans son atelier. Il devait être jeté dans sa poubelle. Il ne faut pas confondre un mauvais Basquiat et un faux Basquiat.
Quoi qu'il en soit, ces dessins sont retournés dans l'ombre de leur coffre et ils ont emporté avec eux leurs secrets.
Merci Isabelle Pasquier. Votre enquête est à retrouver en intégralité sur franceculture.fr. Deux jours après les violences qui ont endeuillé le Capitole, ébranlé l'Amérique et sidéré le monde, la présidence Trump est au bord de l'implosion. Appel à la démission, projet de procédure de destitution, feu de critique contre un président accusé d'avoir sapé les institutions et jeté de l'huile sur le feu. À 12 jours de la fin de son mandat, Donald Trump reste reclus dans la Maison Blanche. Du côté de l'enquête, on compte près de 70 arrestations depuis les émeutes de mercredi et le FBI diffuse un avis de recherche avec les photos des principaux supporters de Donald Trump qui se sont illustrés lors de la violente intrusion dans le Capitole, notamment de 4 d'entre eux. Qui sont-ils ? Portrait avec Sébastien Power à Washington.
Celui qui se fait le plus remarquer s'appelle Jake Angeli. On le voit au pupitre du président du Sénat, torse nu, tatoué, visage peint aux couleurs du drapeau américain, casque à cornes et fourrure sur la tête, une bannière étoilée au bout d'une lance. Il vient de l'Arizona et il se présente comme le chaman des QAnon, le mouvement adepte des théories du complot. Richard Barnett pose lui les pieds sur le bureau de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants. C'est un suprémaciste blanc de l'Arkansas, pro-armes et pro Trump. Il porte souvent un écusson Blue Lives Matter sur ses tenues. Les vies des policiers comptent par opposition au mouvement Black Lives Matter. Les vies des Noirs comptent. Tim Jenney s'est filmé pendant 20 minutes mercredi en direct du Capitole. C'est un néo-nazi de 33 ans, né en Alaska et adepte des appels à la violence sur les réseaux sociaux. Enfin, Nick Hawks est le fondateur des Proud Boys Hawaii, le groupuscule d'extrême droite. Il était candidat aux élections générales à Waikiki en novembre sous les couleurs du Parti républicain, mais il a été battu.
Et le dossier des femmes de confort revient sous les feux de l'actualité. En Corée du Sud, ce vendredi, une décision de justice crée des secousses diplomatiques. Un tribunal y a jugé que Tokyo devait dédommager les victimes d'esclavage sexuel durant la Seconde Guerre mondiale. C'est la première fois qu'une telle sanction est prononcée et cela ne devrait pas contribuer à réchauffer des relations déjà tendues entre les deux voisins. Correspondance à Séoul de Nicolas Roca.
C'est une décision sans précédent qui a un goût de victoire pour les 12 femmes qui avaient demandé réparation à Tokyo. Seules 16 sud-coréennes sont encore en vie parmi les 200 000 victimes, tout pays confondu, contraintes à l'esclavage sexuel par l'armée japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Le tribunal du district de Séoul a jugé que le gouvernement japonais devait indemniser chacune des 12 victimes à hauteur de 100 millions de won, soit presque 75 000 euros. C'est le premier dossier du genre sur le sujet très sensible de celles qui sont appelées des femmes de réconfort. Cette décision a provoqué la réaction du secrétaire général du cabinet japonais, qui a qualifié le verdict d'inacceptable, demandant à Séoul une réponse appropriée. Deux accords, l'un en 1965 et le dernier en 2015, étaient censés avoir clos le dossier selon Tokyo, mais l'administration actuelle à Séoul est plus offensive sur le sujet que la précédente. Elle considère l'accord de 2015 comme nul, car établi sans l'aval des principales intéressées. Les pays sont officiellement alliés face à la menace nucléaire nord-coréenne, mais Tokyo nie sa responsabilité directe dans des viols commis pendant la guerre, jugeant que les femmes étaient recrutées par des civils. De plus, le gouvernement japonais refuse de reconnaître la légitimité du tribunal sud-coréen. Selon Tokyo, un État ne peut être jugé par un tribunal étranger, mais pour les victimes, cette règle ne peut s'appliquer aux crimes de guerre ou aux crimes contre l'humanité. Un autre procès concernant cette fois-ci 20 femmes de réconfort se tiendra la semaine prochaine.
La météo, froid et nuageux au nord du pays, nuages et pluies dans le sud, de la neige en altitude. Les températures iront de moins 4 à 12 degrés du nord au sud du pays. Il est 18h passé.